Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Polycarpe et Polycrate, qui étaient ces deux hommes? D'après ce que nous pouvons savoir dans l'histoire profane, tous deux ont vécu au 1er et au 2e siècle de notre ère. Ils étaient des disciples de la vérité de Dieu et ils ont travaillé à l'œuvre de l'Église de Dieu. Le nom de Polycarpe signifie celui qui est très fructueux ou celui qui porte beaucoup de fruits. Dans les faits, tels qu'ils nous sont rapportés par les historiens, Polycarpe avait été ordonné ancien en tant que responsable de la congrégation de Smyrne en Asie mineure. L'historien Irénée de Lyon dit qu'il était évêque, c'est-à-dire selon la traduction en français du mot grec épiscopos. Il était un gardien, il était un surveillant, ou encore il était tout simplement un responsable de la congrégation de Smyrne. Quant à Polycrate, la seconde personnalité qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de l'histoire de l'Église de Dieu, eh bien son nom indique plutôt celui qui exerce beaucoup de pouvoir ou celui qui dispose de nombreux pouvoirs. Nous comprenons que Polycarpe était donc pasteur de l'église de Smyrne et Polycrate pasteur de celle d'Éphèse, ces deux villes d'Asie mineure étant distantes d'environ 50 à 60 kilomètres l'une de l'autre, c'est-à-dire à peu près 2 ou 3 journées de marche. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Christ a dit qu'il construirait son église et que les portes de l'Hadès, c'est-à-dire les portes de la tombe, ne prévaudrait point contre elle. Or, rappelez-vous, dans un message précédent, intitulé L'histoire de l'Église, les anciens Nazaréens, nous avions déjà examiné comment l'Église a continué de prospérer dès l'époque de l'apôtre Paul et bien après. Une fois le dernier livre de la Bible clôturé, une fois le dernier livre de la parole de Dieu délivré par Jésus-Christ lui-même, à Jean, l'apôtre et le disciple que Jésus aimait, ce livre, le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus-Christ, une fois scellé, à peu près vers les années 94 à 95 de notre ère, selon l'ordre, selon les instructions du Fils de Dieu, le Messie, eh bien, à partir de ce moment-là, l'humanité dispose pour la première fois de l'intégralité de la parole de Dieu, du corpus scriptural de la parole de Dieu, tel que nous l'avons aujourd'hui. Et dans ces derniers versets, il nous est dit très clairement ceci, que rien ne doit lui être retranché et rien ne doit lui être ajouté. C'est un avertissement solennel et dès lors qu'il s'agit, à partir de là, de suivre l'histoire de l'Église, la trace, de recueillir l'histoire de l'Église dans nos recherches, il faut donc s'appuyer non plus sur la Bible qui maintenant, à partir de ce moment-là, est clôturée, la parole inspirée de Dieu, il faut s'appuyer sur des documents profanes, des documents qui ne sont pas reconnus comme étant inspirés par Dieu, c'est-à-dire des documents extra-bibliques, disons-le. Mais cependant, des documents reconnus comme étant historiques, comme étant des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Les informations, il faut bien le dire, sont rares. Elles ne sont pas légion, mais nous pouvons être certains qu'après les apôtres, eh bien, l'Église a continué d'exister au fil des siècles. Pourquoi? Eh bien, parce que, premièrement, tout d'abord, Jésus l'a tout simplement déclaré. Il l'a dit. Dans la parole de Dieu, parole de vérité. Donc nous pouvons avec foi nous appuyer sur sa parole. C'est pourquoi, en particulier, nous ne nous soucions pas des déclarations de certains prétendus historiens qui, de toute façon, ne croient pas à la Bible, ne croient pas en Dieu. Leur déclaration est, à longueur de texte, le fait, à longueur d'exposé, le fait d'après eux que la Bible serait un mythe, un récit légendaire. À cela, il y a près de 2 millénaires, l'apôtre Paul répondait déjà. Et effectivement, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, reportons-nous-y, Voici ce qu'il leur dit. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 18. Il leur dit, car la prédication de la croix, autrement dit la prédication de la bonne nouvelle du rétablissement du royaume de Dieu, la prédication de la croix du salut par Jésus-Christ est une folie pour ceux qui périssent. Autrement dit, elle est une folie pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais pour nous qui sommes sauvés déjà, c'est-à-dire qui avons reçu l'espérance du salut, elle est une puissance de Dieu. Verset 19, « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, notez-le bien, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » C'est Dieu qui parle. Donc Dieu a les clés de l'intelligence, et il peut ouvrir l'esprit ou il peut le fermer. Dans des esprits très brillants, il peut très bien cacher les choses, et c'est ce qu'il fait, pour les révéler à des gens simples, à ceux qu'il a choisis. Verset 20, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?» Et là, on voit la supériorité absolument merveilleuse de notre Dieu sauveur par rapport à la sagesse du monde, c'est-à-dire aux gens les plus savants qui soient, que nous respectons, bien entendu, mais qui n'ont pas cette science, qui n'ont pas cette sagesse venue de Dieu, que Dieu partage dans une certaine mesure avec ses enfants pour déjà leur révéler les mystères de la parole de Dieu. Verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et là, autrement dit, quand on dit la folie de la prédication, il s'agit de la prédication biblique. Elle est une folie aux yeux des hommes qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, l'esprit de compréhension de la sagesse de Dieu, de la sagesse spirituelle de Dieu. Et cela fait toute la différence. Cela fait toute la différence. Dieu, encore une fois, donne aujourd'hui cette sagesse à un petit troupeau d'élus, aussi simple soit-il, tous réglés sur la longueur d'onde du Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Certains documents historiques confirment qu'il y avait bien des gens qui restaient fidèles à la vérité de Dieu telle qu'elle est détaillée dans la Bible. C'est notre fondation, c'est grâce à la Bible et à ses enseignements que nous pouvons reconnaître dans l'histoire où est vraiment le petit troupeau que Dieu a décidé de protéger jusqu'au retour de son Fils que nous attendons encore. C'est aussi une confirmation que l'Église de Dieu était bien vivante à l'époque déjà, comme Christ l'avait prophétisé, et qu'elle continuerait d'exister. Et donc, les témoignages entourant ces deux personnalités, Polycarpe et Polycrate, sont très importants. Ils sont très importants dès qu'il s'agit d'évoquer le thème de l'histoire de l'Église de Dieu après la période apostolique. Irénée de Smyrne, ou aussi Irénée de Lyon, évêque et historien qui vécut au IIe siècle de notre ère, écrivait ceci dans son ouvrage intitulé « Contre les hérésies », tome 3, chapitre 3, paragraphe 4. Il écrit « Polycarpe non seulement fut instruit par les apôtres et conversa avec beaucoup de ceux qui avaient vu le Christ, mais fut aussi, par les apôtres d'Asie, nommé évêque de l'église de Smyrne, c'est-à-dire responsable, que j'ai vu aussi dans ma prime jeunesse, car il resta sur terre très longtemps, et lorsqu'il est devenu un vieil homme souffrant, il souffrit glorieusement et très noblement le martyre, il quitta cette vie après avoir toujours enseigné les choses qu'il avait apprises des apôtres et que l'Église a transmises et qui seules sont vraies. » Et une note de bas de page a été ajoutée indiquant ceci, « Polycarpe a souffert le martyre vers l'an 167 sous le règne de l'empereur romain Marc Aurèle. Son grand âge de 86 ans implique qu'il fut contemporain de Saint Jean, Jean l'évangéliste et l'apôtre, pendant près de 20 ans. » Il nous est donc dit que Polycarpe était très actif lorsqu'il s'agissait de dénoncer les hérétiques. Et Irénée continue, il écrit « Polycarpe lui-même a répondu à Marcion. » Alors, Marcion, qui était-il? Marcion faisait la promotion de la philosophie gnostique. des idées gnostiques à l'époque, des idéaux qui sont contraires à la Bible. J'y reviendrai dans un instant. Et Irénée continue en écrivant, Marcion l'a rencontré une fois et il lui a dit, me connais-tu? Et il écrit que Polycarpe lui répond ceci, je te connais, toi, le premier-né de Satan. Il lui répond directement au sujet de son idée hérétique de croire, et nous le verrons quel est le détail de cette philosophie gnostique qui simplement déjà affirmait, pour être très rapide, que Christ n'était en fait pas le Fils de Dieu. Et Irénée continue et écrit « Telle était l'horreur qu'avaient les apôtres et leurs disciples à l'idée d'avoir une communication, même verbale, avec les corrupteurs de la vérité. » Et l'apôtre Jean lui-même a écrit à propos de cette philosophie gnostique, il l'a écrit dans sa première épître, donc la première épître de Jean, chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, et allons au verset 22, 1 Jean chapitre 2, les versets 22 et 23, où Jean écrit « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Donc on voit qu'à cette époque, cette idéologie qui faisait justement, prônait la négation de l'existence du Fils de Dieu, eh bien, Polycarpe n'était pas le seul à la combattre. Jean, l'apôtre, l'a combattu également et l'a écrit dans ses épîtres pour affermir les églises, pour les avertir fermement. Et Jean rappelle ici que Jésus est bien le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il prétend ceci sur la base des Écritures, il l'affirme, il le rappelle en totale opposition par rapport au gnosticisme, à cette philosophie qui faisait des ravages à l'époque, y compris dans l'Église de Dieu. Et Marcion, sans embâge, enseignait cette philosophie, cette fausse religion, pensant que d'un côté, alors voici le détail du gnosticisme en quelques mots simplement, il y aurait d'un côté un Dieu bon, un Dieu supérieur, spirituel, d'un côté, et de l'autre, soi-disant, il y aurait un Dieu inférieur, un Dieu matériel, un Dieu mauvais, mais qui, en quelque sorte, serait dans une espèce d'unité. C'est très curieux, et c'est pourquoi Polycarpe appelle Marcion le premier-né de Satan, parce qu'il était tout visiblement inspiré par des récits non bibliques sur l'origine de Dieu, sur l'origine de Jésus-Christ, donc inspiré par Satan, inspiré par le destructeur et le menteur, pour se permettre donc de prétendre que Christ n'a jamais existé. Mais Polycarpe et l'apôtre Jean n'étaient pas les seuls, encore une fois, à combattre le gnosticisme. L'apôtre Paul, lui aussi, a combattu, je n'irai pas dans le détail de ses écrits, mais nous les trouvons dans sa première épître aux Corinthiens, dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Colossiens. Irénée de Lyon a également écrit ceci à propos de Polycarpe. Il écrit « De ces choses témoignent toutes les églises asiatiques, c'est-à-dire les églises de l'Asie mineure, ainsi que les hommes qui ont succédé à Polycarpe jusqu'à nos jours, jusqu'au jour de Irénée de Lyon. C'est lui qui, venant à Rome au temps d'Anicée, alors Anicetus en latin, était un dirigeant religieux local à Rome. Dans l'Église de Dieu. Et Anicée, donc Polycarpe, face à Anicée, poussa beaucoup de gens à se détourner de qui ? Des hérétiques, des gens qui prêchaient un autre Christ, des hérétiques qui étaient mentionnés ci-dessus, pour se tourner vers l'Église de Dieu, proclamant qu'il avait reçu des apôtres cette seule et unique vérité, celle qui est transmise par l'Église. Alors, notez bien qu'Irénée appelle la véritable Église, c'est écrit dans ses ouvrages, dans son ouvrage contre les hérésies, il appelle la véritable Église de Jésus-Christ l'Église de Dieu, tout comme le faisaient les apôtres. Polycarpe, donc, était en charge de l'Église de Smyrne. Que savons-nous de cette congrégation et que savons-nous de la ville de Smyrne en Asie mineure ? Que peut-elle nous apprendre de l'histoire de l'Église au 1er et au 2e siècle de notre ère ? Eh bien, lorsque l'apôtre Jean reçut la vision dans le livre de l'Apocalypse des sept églises, des sept congrégations de l'Église de Dieu en Asie mineure, il entend Jésus-Christ déclarer ceci. Reportons-nous au livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. Et reportons-nous au verset 11. Apocalypse, chapitre 1, verset 11. Christ parle et il dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Sept églises. La ville de Smyrne, aujourd'hui Izmir, en Asie mineure, dans la Turquie actuelle, de nos jours, était déjà à l'époque, Smyrne, une grande ville commerciale. Elle a été fondée par l'empereur grec Alexandre le Grand. Et elle accueillait beaucoup de visiteurs, beaucoup de voyageurs déjà à l'époque. Elle se vantait d'ailleurs d'avoir un port formidable, excellent, et elle offrait en plus une route très fréquentée vers l'intérieur de l'Asie mineure, dirigée donc vers d'autres villes. Et Irénée de Lyon poursuit son témoignage historique. Il dit « Du temps des Romains, Smyrne passait pour être la cité la plus brillante de l'Asie mineure, rivalisant amplement avec d'autres villes comme Pergame ou Éphèse. Ses rues étaient larges et pavées, son système monétaire était ancien, et à présent on y retrouve encore des pièces, à l'époque d'Irénée, des pièces de toutes les époques. Elle était réputée pour ses écoles de sciences, pour ses écoles de médecine et pour ses bâtiments impressionnants. Et c'est là, dans cette ville, que Dieu va appeler bon nombre des fidèles chrétiens de son troupeau, de son petit troupeau, des premiers et deuxièmes siècles de notre ère. On sait peu de choses sur cette congrégation, sur la congrégation de l'église de Smyrne, qui se réunissait donc au premier siècle dans cette ville. En dehors de ce qui est écrit sur cette église dans Apocalypse chapitre 1, verset 11 et chapitre 2, verset 8, la Bible ne nous en dit pas plus. C'est tout, malheureusement, ce que nous pouvons savoir de la Bible. En revanche, les historiens, dans leurs détails, donnent des choses intéressantes à propos de Polycarpe, non pas de la congrégation, mais de Polycarpe, responsable de cette congrégation. Et il nous est dit que Polycarpe fut formé par l'apôtre Jean et qu'il devint ensuite pasteur de l'église de Smyrne au IIe siècle. Voici le message adressé à l'église de Smyrne dans son intégralité, tel qu'il est contenu dans le livre de l'Apocalypse. Reportons-nous à Apocalypse chapitre 2 et commençons la lecture au verset 8. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. Christ parle et il déclare ceci. « Écris à l'église, à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Et dernier verset, verset 11, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Donc on note ici dans cette déclaration de Christ à propos de l'église de Smyrne plusieurs points intéressants, plusieurs points importants. La première chose, Dieu connaît les œuvres des membres. C'est une vérité. Et d'ailleurs, il connaît aussi les nôtres. Dieu voit les choses que les humains ne voient pas. Il connaît notre cœur, Dieu connaît nos œuvres, il connaît même nos pensées. Et nous le lisons d'ailleurs dans le psaume, chapitre 94, verset 11. Psaume 94, verset 11, je ne m'y reporte pas. Et donc ici, en substance, dans ce que nous voyons de la déclaration de Christ aux membres de l'église de Smyrne, il leur dit qu'il connaît leur affliction et leur pauvreté. Il savait aussi qu'il y avait des individus, nous est-il dit, qui se prétendaient juifs et qui, en fait, ne l'étaient pas. Donc, ils mentaient. À leur sujet, il semble qu'ils aient été la cause de bien des afflictions pour les membres de l'église de Smyrne, c'est ce que nous lisons. Et nous savons que les apôtres et les membres de l'église de Dieu au premier siècle étaient en grande partie d'origine juive, bien entendu. En revanche, nous ne savons pas pourquoi il y avait un certain nombre d'individus à Smyrne qui se faisaient passer pour des juifs et qui ne l'étaient pas, et qui s'étaient en plus rendus coupables de calomnies aux yeux de Dieu ou des blasphèmes, comme le dit la Bible Martin. Et Christ dit qu'ils étaient une synagogue de Satan, selon sa parole, donc des gens vraiment tournés vers le mal. Le verset 9 parle de ceux qui se disent juifs, hein, je le répète, ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Alors, on peut comprendre cette expression d'un point de vue littéral, bien évidemment, hein, stipulant que ces individus se disaient apparemment juifs, de descendance juive, ou des pratiquants du judaïsme, mais qu'ils ne l'étaient pas. Il y a aussi un autre moyen d'interpréter cette déclaration. En effet, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit ceci. Notez-le bien. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2 et le verset 28. Reportons-nous-y. Romains, chapitre 2 et le verset 28. Où Paul dit ceci. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Donc comprenez bien, dit Paul, ce que je suis en train de dire. Quand je dis le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, il parle aussi du thème de la circoncision, ce qu'il dit à travers ces mots, quand il parle de la circoncision, il avertit ses lecteurs, il leur dit, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, alors de quoi parle-t-il? Mais, d'une part, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, voilà la clé, et la circoncision, c'est celle du cœur, verset 29, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc Paul parle, dans ces deux thèmes, le juif et la circoncision, il parle de choses spirituelles. Donc voilà l'explication. Selon l'esprit et non selon la lettre. Et ici, nous comprenons bien que, dans ce sens, tous les chrétiens, peu importe leur souche ethnique, sont des juifs spirituels. Voilà ce que Paul nous dit. Et nous relisons bien sûr le passage dans le livre de l'Apocalypse et nous le comprenons d'une façon différente. Ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, ce sont ceux qui se disent chrétiens, des juifs spirituels, donc qui observent la loi de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, hein, qui observent ce que Christ a dit et aussi qui observent la loi de Dieu telle que les juifs l'observaient, les Israélites l'observaient. Abraham l'observait aussi, tous les gens qui étaient convertis dans la Bible au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, voilà ce que dit Paul, et voilà ce que dit ici Christ lui-même, ceux qui se disent juifs, eh bien, ce sont donc les chrétiens, les membres, à l'époque, hein, les membres donc de l'Église de Dieu. Donc, certains se disaient membres de l'Église de Dieu, mais ne l'étaient pas. Ils n'étaient pas dans leur cœur. Ils avaient peut-être, je ne sais pas moi, une sorte de reconnaissance au milieu de la congrégation. Bon, ben, vous êtes des membres, on vous accueille. Mais ils n'avaient pas dans leur cœur, invisible, cette conversion, ce désir d'appartenir à Christ et d'être appelé en tant que tel chrétien et d'être digne de cette appellation à travers leurs œuvres, à travers leurs croyances, à travers tout ce qu'ils faisaient et disaient. Donc, cette référence aux Juifs dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 8, nous la comprenons sous l'angle spirituel, en tant que juif spirituel, c'est-à-dire en tant que chrétien. Alors oui, il y aurait un rapport direct avec ce qui s'est produit dans l'histoire de l'Église. Je rappelle encore une fois que dans l'Église du 1er et du 2e siècle, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de juifs. C'était pratiquement la majorité. Donc, qu'il n'y ait pas de méprise à ce sujet dans mes paroles, l'Église de Dieu était composée de beaucoup de Juifs à cette époque. Puis, elle s'est ouverte, bien entendu, à ce que la Bible appelle les Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs. Donc, très clairement, les choses sont claires, elles ne sont pas compliquées. Poursuivons maintenant le récit de l'histoire de l'Église à cette époque. Donc, l'un des principes fondamentaux que certains chrétiens avaient abandonné à l'époque, donc certains des juifs, des membres de l'Église qui se disaient juifs, mais qui ne l'étaient pas, autrement dit, de faux membres de l'Église, des gens qui n'étaient pas vraiment convertis et qui commençaient tout simplement à enseigner des choses différentes, eh bien, c'est la question de la célébration de la Pâque. Nous allons voir que cela va donner naissance à un grand trouble dans l'histoire de l'Église. En effet, la célébration de la Pâque est au cœur d'une controverse fameuse. Nous allons voir le détail et l'appellation de cette controverse. Jésus mentionne un autre point. Il parle de la pauvreté de l'Église de Smyrne. Il dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Alors, cette remarque, « bien que tu sois riche », est en opposition totale avec la première partie de la phrase. Pourquoi ? Il indique ici que même si les membres étaient financièrement ou matériellement dans le besoin, ils étaient néanmoins riches. Riches, comment ? Ben, riches dans leur relation avec Dieu, bien entendu. Paul reprend d'ailleurs ce thème quand il écrit dans Romains chapitre 10, verset 12, que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, pour expliquer quelque peu ce verset, Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Ça veut dire quoi ? Eh bien, Christ était dans la gloire de Dieu avant de venir naître en tant qu'être humain, et il s'est fait pauvre. Il est descendu de son statut divin à un statut humain pour venir mourir et pour venir sauver l'humanité, sa propre vie ayant bien plus de valeur que tout ce qui peut exister dans le monde et que la somme de toutes les vies, bien entendu, de l'humanité qu'il a créée lui-même. Donc, c'est la raison pour laquelle il est le seul qui puisse nous sauver. Donc là, nous avons bien la preuve qu'il est question, selon les circonstances, soit d'une richesse glorieuse extérieure, physique, ce qu'on appelle communément un signe extérieur de richesse, là, une richesse matérielle, montrant la gloire, l'importance temporaire des êtres humains, et puis de l'autre, nous avons la vraie richesse, dans ces versets, une richesse spirituelle, une richesse intérieure, une richesse selon Dieu, une richesse qui est éternelle. Et ici, dans le cas de Smyrne, il est bien question, dans la déclaration de Christ dans le livre de l'Apocalypse, il est bien question d'une pauvreté physique, puisqu'elle va de pair avec des circonstances temporaires. On y parle d'affliction, on y parle de calomnie dans cette déclaration. Nous voyons bien que ce sont des choses qui ne dureront qu'un temps et ne dureront pas toujours. Et tant mieux d'ailleurs pour l'Église de Smyrne, tant mieux pour l'Église de Dieu et tant mieux pour l'humanité. Nous attendons tous, d'une façon ou d'une autre, le retour de notre Sauveur, le retour de Jésus-Christ. Là, très clairement, il s'agit bien, en dernier lieu, d'une richesse spirituelle éternelle. Les choses sont claires. Donc, une richesse qui nous est acquise à condition, bien sûr, de demeurer fidèles. Et c'est ce que Jésus-Christ dit précisément au verset suivant. Verset 10, il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Autrement dit, continue de vivre ta vie jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de notre existence. Sois fidèle, continue dans les enseignements, continue dans la croissance spirituelle et je te donnerai la couronne de vie. Donc, Christ, notre Seigneur, a exhorté par là même, par ce message dans le livre de l'Apocalypse, notamment Polycarpe, chef en quelque sorte, pasteur de la congrégation de Smyrne, et les chrétiens de la congrégation de Smyrne. Il les a incités, il les a encouragés à demeurer fidèles en dépit des épreuves temporaires qu'ils allaient devoir souffrir, qu'ils allaient devoir connaître. Une fidélité face aux difficultés, bien entendu, que ce soit le dénuement par rapport à des besoins physiques, des besoins qui restent insatisfaits peut-être, ou même face à la tribulation, face à la persécution, aux calomnies, jusqu'à la fin de leurs jours, jusqu'à la mort, et même, dans certains cas, jusqu'à la fin, jusqu'à une mort peut-être brutale, peut-être une mort qui servirait de témoignage dans la vérité. Donc le conseil qui est donné à l'Église de Smyrne s'applique à nous aujourd'hui. Ça, c'est très important, ce n'est pas quelque chose qui est historique seulement, uniquement, mais c'est un message. Il y a une leçon pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous devons demeurer fidèles en dépit de tout ce qui peut arriver, des afflictions et même de la pauvreté ou du dénuement de certaines choses. Pauvreté par rapport peut-être à la maladie, par rapport à certaines conditions physiques, peut-être tout simplement pauvreté financière. Ces choses peuvent arriver. Mais en effet, Jésus conclut son message à l'église de Smyrne par ces mots: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour cela, pour rester fidèles à Dieu, comme le peuple de Dieu à Smyrne au début de notre ère, nous devons donc, nous aussi, résister à la pression qui voudrait nous voir abandonner la foi, qui voudrait nous voir rejeter cette foi, la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes, dans l'Épître de Jude, versets 3 et verset 4. Donc au fil du temps, une grande partie des pratiques chrétiennes ont été éliminées au profit de raisonnements humains. C'est ainsi. Qu'il s'agisse des pratiques de Jésus, pour nous, les chrétiens, voici notre feuille de route. La voici. Il s'agit d'aimer Dieu en célébrant les fêtes de Dieu, tout simplement. En célébrant ses fêtes, en honorant Dieu et ses jours saints, tels qu'ils nous sont donnés dans la Bible. Alors oui, cela peut constituer dans nos vies personnelles un changement majeur dans la vie de celui ou de celle qui en vient à comprendre cette vérité éternelle. Mais tous dans l'Église, nous avons dû faire ce choix, nous avons dû faire cet ajustement ou en venir à cette réalisation, réaliser ces choses sans nous inquiéter outre mesure concernant la manière d'effectuer ce changement dans nos vies. Les choses viennent ainsi. Pourquoi ? Mais parce que Dieu nous aide dans sa force, dans sa puissance. Il ne nous laisse pas seuls. Il répond à nos prières et il nous aide dans la voie droite, dans la voie de Christ, qui seule peut être découverte grâce à l'appel de notre Père Céleste. Donc Dieu ouvre en grand les portes devant nous dès que nous manifestons notre désir de vouloir lui obéir, tout simplement, de faire ce qu'il nous demande de faire. Dieu possède des plans stupéfiants pour toute l'humanité. Et il a décidé, je le dis encore une fois, d'appeler un petit troupeau. Il a des plans absolument merveilleux, stupéfiants pour vous, pour moi, pour toute l'humanité. Ces plans de Dieu sont en faveur de ses enfants. Dieu aime tendrement sa création, il ne nous a pas destinés à être les seuls à recevoir ses bénédictions. Dieu a créé toute l'humanité, c'est pour qu'elle puisse bénéficier un jour des mêmes choses et des mêmes merveilleuses vérités et de la réalité de la parole de Dieu et des bénéfices qu'elle peut apporter dans nos vies. Cela est évident et cela explique la logique des choses, en quelque sorte. Toute sa création est centrée autour de l'humanité. Vous savez, vous avez l'humanité, cette petite boule bleue, eh bien, toute la création, tout a été fait sur cette terre pour servir l'homme, pour lui permettre de vivre, de s'épanouir. Et tout l'univers également englobe comme un coffret magnifique cette petite terre sur laquelle se trouve le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Voilà le plan de Dieu. Le plan de Dieu, son but, c'est qu'un jour, ses enfants naissent dans la famille de Dieu, dans sa famille. C'est son but. Il veut avoir une vraie famille autour de lui et dans le vaste univers spirituel qu'il nous prépare. Nous n'avons pas encore vu ces choses. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à l'histoire et au ministère de Polycarpe. Dans son histoire ecclésiastique, l'historien Eusèbe de Césarée confirme les commentaires d'un autre chroniqueur que je venais de citer, Irénée de Lyon ou Irénée de Smyrne, lequel, d'ailleurs, Irénée a peut-être été un élève de Polycarpe. Nous n'en sommes pas sûrs, mais c'est une possibilité. Eusèbe rapporte une expérience fascinante vécue par Polycarpe à Rome. Le responsable de l'église de Dieu à Rome était un certain Anicet, Anicetus en latin, et Polycarpe réalise qu'il y a un problème, il y a un différend, il y a une controverse qui est en train de naître, et cette controverse, je l'avais déjà évoquée précédemment, est au sujet du jour de la Pâque. Les deux hommes se rencontrent au cours d'une conférence. Ils débattent de ce sujet sur donc le jour de la fête de la Pâque. Et dans l'histoire ecclésiastique, ce différend, cette controverse porte un nom. Il s'agit de la controverse quartodecimane. Quartodecimane ou quartodecimane. Alors quartodecimane est un nom très peu utilisé en français, mais il signifie en rapport avec le nombre 14. Alors pourquoi 14? Eh bien parce que la Bible déclare effectivement, clairement, que la Pâque doit avoir lieu le 14e jour du premier mois du calendrier hébreu. Nous lisons ceci dans Lévitique chapitre 23, verset 5. Et Polycarpe, évidemment, tenait à ce jour de la fête de Pâques, le 14e jour du calendrier hébreu, de même que nous-mêmes, de nos jours, nous célébrons cette fête à cette date exactement, selon le calendrier hébreu. Nous le faisons de nos jours également. Et Polycarpe tenait fermement à ce que les chrétiens, évidemment, continuent. Il avait la responsabilité de l'église de Smyrne et il était en rapport avec les responsables des congrégations en Asie mineure. Il voulait, évidemment, protéger le troupeau de Dieu et inviter et encourager les membres à continuer à croire ces choses et à ne pas se laisser influencer par de fausses croyances. Donc on peut comprendre pourquoi il manifestait cette ténacité, il avait cette responsabilité. Eh bien, en plus, pourquoi cette ténacité redoublée? Eh bien, Polycarpe voyait le danger arriver, en particulier avec Anicet qui, lui, commençait à observer un autre jour. Il se permettait de changer la date d'observance des fêtes de Dieu, et cela, Polycarpe ne voulait pas en entendre parler. Donc, il y avait donc cette nouvelle doctrine qui circulait, selon laquelle il fallait maintenant observer un autre jour, fixé à une autre date, et nous allons voir quel est ce jour. Polycarpe n'acceptait pas cette nouvelle doctrine, qui allait donc devenir plus tard la tradition du Vendredi Saint, la tradition du dimanche de Pâques. Une tradition non biblique, c'est clair, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas une instruction de Dieu. Et cette date était censée remplacer carrément, c'est-à-dire qu'on n'observait plus ce que Dieu avait demandé d'observer. Cette date était censée remplacer l'instruction de la date de la Pâque de l'Éternel trouvée dans la Bible. Il s'agissait donc clairement d'une apostasie, d'une hérésie. L'adoption, donc, une apostasie, l'adoption par certaines congrégations d'une hérésie, d'une fausse doctrine devenue une de leurs croyances fondamentales. C'est absolument incroyable, mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Et l'historien Eusèbe de Césarée raconte que Polycarpe et Anicet ont donc cette réunion, et chacun, au cours de cette réunion, au sortir de cette réunion, chacun campe sur ses positions. Aucun d'entre eux n'a réussi à convaincre l'autre. Ils se séparent, soi-disant, en bons termes. C'est évidemment la vision personnelle de l'historien qui s'exprime ici, car la réalité historique prouvera, des années plus tard, que la haine contre les chrétiens fidèles à la parole de Dieu, aux enseignements de Jésus, deviendra malheureusement une terrible réalité. Et elle sera d'ailleurs traduite sous la forme d'une persécution contre ces chrétiens fidèles, dirigée par une fausse église, cette fois, une église apostate, une église hérétique, soutenue par le pouvoir militaire romain. C'est absolument incroyable, mais c'est ainsi que les choses se sont passées à l'époque et ont continué de perdurer au travers des siècles. On pourrait se demander, mais comment et pourquoi ces gens, ces anciens frères, ont-ils cessé de célébrer les jours saints que Jésus observait? Comment se fait-il qu'ils ont maintenant adopté une nouvelle date? De quel droit ont-ils fait de telles choses? Vous savez, lorsque j'étais enfant, mes parents nous emmenaient à la messe le dimanche. Mais avec mon frère, avec mes sœurs, avec mes cousins et mes cousines, lors de nos réunions familiales au centre de la France, nous étions habitués à entendre la messe en latin à l'époque. C'était dans les années 60 encore, selon le rite tridentin. Et mon père chantait en latin. Il chantait en latin et, bien sûr, en tant qu'enfant, à l'âge de 6-7 ans, nous ne comprenions pas ce qu'il disait, mais nous pensions que c'était ce que Dieu voulait. Nous pensions que c'était sa volonté jusqu'à un jour où peut-être eh bien, nous commencions nous-mêmes, nous pourrions enfin comprendre le sens de ces mots. Mais aujourd'hui, je me dis que si toute notre famille, imaginons-le, si toute notre famille soudainement avait été transportée 2000 ans en arrière, à l'époque de l'Église du Nouveau Testament, tout en étant capable de comprendre, imaginons-le, le grec, ayant un traducteur automatique en quelque sorte, la langue locale. Nous pourrions donc discuter avec les gens de l'époque, nous serions invités dans leur église, nous serions en tant que chrétiens invités par des chrétiens. Eh bien, qu'est-ce que nous aurions vu? Qu'aurions-nous découvert? Une église tout à fait différente, une église complètement différente, une église qui ne se réunirait pas le dimanche, mais une église qui se réunirait le samedi, le jour du sabbat, dans les synagogues. Il n'y aurait pas de signe de croix, il n'y aurait pas de prière, toute faite, annonnée sur un ton étrange, aussi étrange qu'artificiel. Il n'y aurait pas de saint ceci ou de saint cela. Personne ne devrait s'agenouiller devant une statuette, bien surtout pas. Nous aurions découvert une église complètement différente, où les enfants ne seraient pas, par exemple, baptisés avant d'avoir atteint l'âge adulte. Où les baptêmes ne se feraient pas par aspersion, mais par immersion dans l'eau, selon le sens du mot baptême ou baptizo en grec, évidemment. Où les fêtes, par exemple les fêtes de Noël, de la Toussaint, la fête des morts, la fête de l'Ascension, la fête du Vendredi Saint, la fête du Dimanche des Pâques, etc., etc., toutes ces choses seraient totalement inconnues. Elles n'existaient pas à l'époque, et pour cause. Elles étaient censées remplacer des célébrations que Dieu avait instituées dans la Bible et que les chrétiens de l'époque observaient. De même, une prétendue troisième personnalité divine sous la forme du Saint-Esprit, faisant partie d'une soi-disant Trinité, dont il n'est nullement question dans la Bible. Vous ne trouverez pas cela dans la Bible, mis à part certains passages qui ont été rajoutés de façon frauduleuse. Et ça, nous savons que c'est une chose extrêmement grave aux yeux de Dieu, ces choses n'existaient pas. Ces choses n'existaient pas. Mais ce qui était enseigné, en revanche, c'est la vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il faut bien comprendre qu'à l'époque du 1er et du 2e siècle, la Bible des chrétiens, c'était l'Ancien Testament. Et Christ, d'ailleurs, confirmant aux apôtres qu'ils ne détruiraient pas la loi, il est évident que les 5 premiers livres de la Bible étaient leurs livres de chevet, en quelque sorte. Alors, il y avait, ce n'était pas des livres comme celui-ci, c'était évidemment des écrits, des rouleaux qui circulaient, qui étaient, ou des fragments de Bible, bien entendu, qui circulaient, qui étaient recopiés par des gens certainement lettrés sur des moyens, les moyens de l'époque, les moyens de les différents parchemins disponibles. Alors, pourquoi l'Église du 1er siècle semble-t-elle si différente des Églises qui se disent chrétiennes aujourd'hui? Jésus savait que ses adversaires le tueraient d'abord, et puis que d'autres le suivraient en essayant d'effacer ou de réinterpréter ses enseignements et ses pratiques. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus n'a pas épargné ses mots. Il a dit ceci en avertissant ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Versets 4 à 5, Matthieu chapitre 24, et verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, grâce aux Écritures du Nouveau Testament, nous savons que les hérésies n'ont pas attendu très longtemps avant de s'infiltrer au sein de l'Église de Dieu. Il existe en effet un thème commun dans les écrits de Paul, de Pierre, de Jean, de Jude. Ce sont des mises en garde contre les changements hérétiques qui attaquent frontalement l'Église de Dieu du 1er siècle. Les apôtres insistent, ils préviennent à de multiples reprises, ils informent les congrégations des dangers qui se présentent, des mensonges, des changements d'attitude, motivés par des sentiments antisémites, il faut le dire, et avec de fausses idées qui suivent les philosophies du monde et qui se croient supérieurs à l'esprit et au commandement du Dieu créateur de l'univers et de la terre. Ces hérésies sont annonciatrices d'une nouvelle religion qui tenterait astucieusement de prendre la place de la seule vraie religion, la religion de Dieu, commandée par Dieu, la religion de l'Église de Dieu. Notez la déclaration étonnante de l'apôtre Pierre à propos des lettres de Paul qui citent les Églises de Dieu, je le répète. Pierre dit ceci dans sa deuxième épître, 2 Pierre chapitre 3, verset 16, 2 Pierre chapitre 3, verset 16, où il écrit que dans toutes les lettres où il, c'est-à-dire Paul, parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, mal affermies, tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc au fil des Épîtres, nous voyons, passage après passage, des mises en garde de la part des apôtres, au sujet de gens qui ne comprennent pas la parole et qui commencent à tordre les enseignements. C'est très, très notable. L'apôtre Paul ne serait pas donc surpris de voir les enseignements et les pratiques de la plupart des églises aujourd'hui, parce que ces choses commençaient déjà à s'infiltrer à l'époque. Il serait évidemment de nos jours consterné s'il pouvait voir aujourd'hui ces choses, et de voir à quel point ces paroles ont été déformées pour justifier bon nombre de doctrines actuelles. Déjà, il écrivait aux Galates ceci dans son épître aux Galates, chapitre 1, verset 6 à 7. Galates, chapitre 1, verset 6 à 7. Il écrit ceci, notez-le bien, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, prévient-il, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Donc, nous voyons ces tentatives frauduleuses. Christ nous avertit, les apôtres nous avertissent, Paul, Pierre, Jean le fait, Jude aussi. Il a dû faire face à la même bataille. Il dit « Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes », dit-il dans Jude chapitre 1, verset 3. Jude chapitre 1, verset 3. En méditant sur ces événements, on pourrait se demander pourquoi quelqu'un serait même motivé pour fomenter de tels bouleversements doctrinaux dans la pratique de l'Église. C'est ici que les choses deviennent sinistres. J'en ai déjà parlé, je vais le rappeler à nouveau. Il y avait bien plus en coulisses, des choses terribles. Il y avait bien plus que de simples nouvelles idées doctrinales, de nouvelles philosophies. C'était bien pire que cela. J'ai évoqué en effet tout à l'heure l'antisémitisme, clairement, je l'ai dit, la haine exercée contre le peuple juif, contre l'existence même de la nation juive et contre les doctrines fondamentales des textes de l'Ancien Testament. Eh bien, cette haine profonde, cet antisémitisme commençait déjà à l'époque à influencer fortement les gens, en particulier certains croyants au sein de l'Église. C'est absolument incroyable. Eh bien, ces gens-là savaient, bien sûr, tous savaient que pourtant Jésus était juif, que les apôtres étaient juifs. Ils le savaient. Ils savaient aussi que la Pâque, par contre, et que les autres jours saints bibliques n'étaient pas spécifiquement juifs. Ils savaient que c'était la propriété de Dieu. Alors encore une fois, comment peut-on développer cette haine ou comment peut-on commencer à vouloir se démarquer de la nation juive? Pour quelle raison? Eh bien, c'était pourtant ce qui allait se passer. Et c'est ce qui s'est passé. La réponse à cette question, c'est que l'antisémitisme et la haine étaient plus forts que tout. Et tout ce que certains considéraient comme juifs ou rappelaient le peuple juif serait désormais ciblé, serait désormais écarté, devait être modifié, etc., etc. Soit même d'ailleurs disparaître complètement. Et c'est ce que nous voyons dans les manifestations différentes, des différentes manifestations ou expressions de l'antisémitisme. Et ainsi, tout a été fait à la croisée des chemins dans l'Église de Dieu, dans cet état d'esprit. Absolument incompréhensible au premier abord, mais terrible quand on en comprend les réelles motivations. Aujourd'hui, le Vendredi Saint, le dimanche de Pâques, sont dans le monde catholique la période la plus sainte de l'année pour le christianisme traditionnel. Malheureusement, la plupart des fidèles ignorent que leur seule autorité pour ces nouveaux jours et pour cette nouvelle doctrine à l'époque, eh bien, ce sont les paroles des hommes et non pas la parole de Dieu. Et les avertissements de Jésus et des apôtres plus tard se sont réalisés, disant que « Il s'élèvera du milieu de vous ». Notez-le bien. « Il s'élèvera du milieu de vous », du milieu de l'Église de Dieu. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux anciens de l'Église d'Éphèse, dans Actes chapitre 20, verset 30. « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses ». Ces hommes, sortis du milieu de l'Église de Dieu, ont voulu changer les jours observés par Jésus et par l'Église de Dieu, mais ils n'ont jamais pu les éradiquer complètement. Peut-être certains diront encore, mais voyons ces changements apportés au jour saint de Dieu. Est-ce que tout cela était si important? Était-ce si important? Le fond de la question revient à ceci. Pouvons-nous prétendre, alors que nous, êtres humains, regardons ces choses, pouvons-nous prétendre adorer le Sauveur qui a donné sa vie pour nous, si nous suivons ceux qui ont essayé de changer ces doctrines et de modifier ces pratiques? Pouvons-nous prétendre adorer le Sauveur de cette façon, si ces pratiques, ces enseignements sont écarté, réduit à néant. Christ a déclaré exactement le contraire. L'apôtre Jean lui-même l'a bien dit. Dans sa première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Et deuxièmement, dans sa deuxième épître au chapitre 1 et au verset 6, 2 Jean 1, 6, il dit « L'amour consiste à marcher selon ses commandements, clairement. » Marcher selon ce qu'il a dit, ne pas essayer de changer ses commandements, ne pas essayer de changer le quatrième commandement qui dit « Tu observeras le jour du sabbat » en un dimanche. C'est là le commandement, dit-il, dit Jean, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Les choses ne sont pas compliquées, il suffit de rester fidèle à la parole de Dieu. Venons-en maintenant à la deuxième personnalité de l'Église de Dieu dont je voulais parler aujourd'hui, Polycrate. Polycarpe n'était pas le seul à élever la voix pour s'accrocher publiquement à la vérité, car cet autre dirigeant, Polycrate, cet autre dirigeant de l'Église, s'est également attaché à défendre énergiquement ces mêmes enseignements fondamentaux de Jésus et des apôtres, et il déclare, c'est quelque chose que nous trouvons sur le site earlychristianswritings.com. Polycrate présidait l'église d'Éphèse, donc ce que nous avons vu dans, de la part des historiens, dans laquelle les traditions de l'apôtre Jean étaient encore récentes dans les esprits à la date de sa naissance. Il avait sans doute connu Polycarpe de Smyrne, donc Polycrate était à Éphèse, Polycarpe était à Smyrne, et Irénée de Lyon aussi, donc l'autre historien. Il semble avoir présidé une réunion des responsables des églises d'Asie mineure en 196 de notre ère pour examiner la question de la date de la fête de Pâques, lui aussi. Donc l'histoire ecclésiastique de Zeb confirme en effet que Polycrate s'attachait fermement, lui aussi, à la date de la Pâque célébrée le 14e jour du premier mois hébreu, exactement comme nous le faisons aujourd'hui, exactement comme les apôtres le faisaient, comme Christ le faisait, et les hommes de l'Ancien Testament. Et voici ce que dit le tome 5, chapitre 24 de l'histoire ecclésiastique de Zeb. Les évêques d'Asie, encore une fois, nous parlons de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, conduits par Polycrate, décidèrent de célébrer à l'ancienne coutume qui leur a été transmise. Lui-même, dans une lettre qu'il adressa à Victor, à l'église de Rome, exposa dans les termes suivants la tradition qui lui était parvenue. Donc on voit encore que le responsable de l'église de Rome est toujours dans ces nouvelles traditions. Et il leur explique les choses suivantes. Il leur dit, nous observons le jour exact. Nous n'y ajoutons rien, nous n'y retranchons rien. Donc il ose dire ces choses, qui sont des choses bibliques. Il leur dit, mais nous n'avons rien changé. Nous n'avons pas changé ces choses. Polycrate est très clair. Et il dit, car en Asie aussi, de grandes lumières se sont endormies, ce qui veut dire qu'il parle des anciens qui sont morts dans la foi. Et ils se lèveront de nouveau le jour de la venue du Seigneur, quand il viendra du ciel, avec gloire, chercher tous les saints. Donc ils croyaient en la résurrection. Et parmi ceux-ci se trouve Philippe, l'un des 12 apôtres, qui s'est éteint à Hériapolis. En outre, Jean, qui était à la fois témoin et enseignant, qui s'est reposé sur le sein du Seigneur, donc il s'agit de Jean l'apôtre, et de Polycarpe à Smyrne, qui était ancien et martyr. Donc ça, ce sont les écrits de Eusèbe de Césarée. Tout cela, continue-t-il, donc les saints et les anciens énumérés dans son récit, observés le 14e jour de la Pâque, selon l'Évangile, sans s'en écarter en aucune manière, mais en suivant la règle de la foi, et moi aussi, Polycrate, le plus petit d'entre vous, je fais selon la tradition de mes enseignants et dont j'ai suivi quelques-uns de près, car 7 de mes enseignants étaient pasteurs, c'est ma traduction, et je suis le 8e, et mes proches observaient toujours le jour où les gens rangeaient le levain. Ils observaient le jour où les gens rangeaient le levain. C'est quoi ce jour? Polycrate observait la fête des pains sans levain, mentionnée dans Lévitique chapitre 23, tout comme le faisaient ses enseignants et ses frères et sœurs dans la foi. Et il continue en disant, « Moi donc, frère, qui ai vécu 65 ans dans le Seigneur, qui ai rencontré les frères du monde entier et qui ai parcouru toutes les saintes Écritures, je ne suis pas effrayé par des paroles terrifiantes, car ceux qui sont plus grands que moi ont dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. » Et là, il cite Luc, l'auteur du livre des Actes, acte 5, verset 29. Donc là, il s'agit de l'histoire ecclésiastique de Zeb, Eusèbe de Césarée, qui rapporte les paroles donc de Polycrate. Polycrate avait donc des mots très forts. Il avait des mots très convaincants. Et nous voyons qu'il n'abandonnerait pas la vérité sur la célébration de la Pâque. Il voulait tenir bon, il a tenu bon apparemment, tout comme Polycarpe de Smyrne, qui est mort martyr. Les membres de l'Église, sous leur direction, ont continué de célébrer la Pâque le 14e jour du premier mois du calendrier hébreu, sans qu'il y ait le moindre changement. Et Eusèbe poursuit sa lecture de la lettre de Polycrate. Au paragraphe 8, il écrit, « Et ceux, donc les autres pasteurs de sa région, eux, voyant ma petitesse, donnèrent leur consentement à la lettre, sachant que je ne portais pas mes cheveux gris en vain, dit-il, mais que j'avais toujours gouverné ma vie selon le Seigneur Jésus, selon les enseignements du Seigneur Jésus contenus dans la Bible. » Et suite à cette lettre diffusée, le responsable de la congrégation de Rome, Victor, donc décédé en 199 de notre ère, qui était d'ailleurs fortement impliqué dans la discussion, Victor va réagir contre l'Église de Dieu d'Asie mineure et il va réagir vivement contre cette lettre de Polycrate. Et donc le récit d'Eusèbe de Césarée raconte ce qui se passe. Il continue au paragraphe 9 et il écrit « Alors Victor, qui présidait l'Église de Rome, tenta immédiatement de couper de l'unité commune les congrégations de toute l'Asie mineure et les églises qui étaient d'accord avec elle comme étant hétérodoxes. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire hétérodoxe? C'est un mot originaire d'un mot grec, c'est-à-dire non conforme aux normes ou aux croyances acceptées. Donc, il y avait en quelque sorte des croyances à Rome et des croyances en Asie mineure. Et donc Eusèbe continue en écrivant « Victor écrivit des lettres pour déclarer tous les frères et toutes les sœurs de ces congrégations totalement excommuniées. » Autrement dit, Victor déclare de sa propre autorité que ces congrégations sont toutes en dehors de l'ensemble des congrégations chrétiennes qui acceptent le changement que lui soutient. Or, plus tard, Victor, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est revenu sur ses décisions. Il est revenu sur ses lettres et il a fait amende honorable. Jusqu'à quel point, on peut se le demander. Eh bien, la vérité, c'est Dieu qui la connaît. Dieu connaît la vérité, il la donne à ceux qu'il a appelés et auxquels il a révélé cette vérité. C'est donc vers Dieu que nous devons nous tourner pour avoir la vérité. Et le peuple de Dieu se réunit, se rassemble et observe les fêtes de Dieu, observe le sabbat de Dieu, fait sa volonté, et dans cette unité, dans cette famille, nous recherchons aussi individuellement, par la prière, la volonté de Dieu. Quant à ceux qui tordent la vérité biblique, ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu, soit ils se sont égarés eux-mêmes loin de cette vérité, piégés par la désobéissance, piégés par la rébellion, ils ne veulent pas comprendre la révélation simple et profonde de la parole de Dieu, mais Dieu veut, encore une fois, que tous les êtres humains soient appelés, et cela ne peut se produire que selon le temps et selon les circonstances que Dieu a décidées. La Bible propose une approche en deux étapes pour obtenir une protection efficace contre la tromperie. Première étape, nous devons lire et nous devons étudier la Bible. Il faut la lire, il faut la comprendre, et pour cela, nous éditons sur notre site web Vie, Espoir et Vérité des centaines d'articles très faciles à lire, très faciles à trouver, directement liés à toutes les questions que nous pourrions avoir. Il nous suffit simplement de taper, d'entrer quelques mots répondant à la question que nous nous posons dans cette fenêtre et d'avoir toute une liste d'articles qui nous permettront d'étudier ce thème et de nous faire une opinion sur ce que Dieu révèle et demande aux êtres humains dans sa parole, de nous reporter à ses versets. Donc, étudions régulièrement la Bible, lisons-la, notons les points, les passages qui sont importants, de sorte que nous puissions ensuite les étudier dans le détail. Et puis, deuxième étape, nous devons rechercher les conseils des enseignants formés pour enseigner la Bible et qui la vivent. Donc, je voudrais terminer ce message finalement en précisant que ces deux personnalités historiques de l'Église de Dieu, deux hommes fidèles de Dieu, Polycarpe et Polycrate, nous ont laissé un héritage conséquent à considérer. Premièrement, nous voyons que malgré les persécutions, l'Église fondée par Christ n'a pas disparu. Au IIe siècle, elle était toujours là. Et il y avait des congrégations à Smyrne, supervisées par Polycarpe, et à Éphèse, supervisées par Polycrate. Deuxième point, ces hommes sont restés tous les deux fermes dans leur croyance, telle qu'elle leur avait été enseignée. Ils ont suivi les traces des premiers apôtres. Et troisièmement, ils n'ont pas mâché leurs mots quand il s'agissait de tenir bon dans la vérité. Ils n'ont pas hésité à faire face à ceux qui s'opposaient à la volonté, prétendant apporter de nouvelles prétendues vérités, tout en espérant changer à la fois les temps et la loi, c'est-à-dire les dates des fêtes de Dieu et leur observance conforme aux instructions de Dieu. Polycarpe fut finalement martyrisé, je vous l'ai dit, pour ses convictions. Quant à Polycrate, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui par la suite. Nous pensons que probablement il a continué dans la foi. L'histoire ne nous le révèle pas. Mais en tout cas, dans la manifestation et dans le témoignage des historiens, leur exemple de fermeté, de ténacité, a aujourd'hui un impact sur nous. Il nous sert d'exemple. Nous pouvons nous poser des questions sur nos propres réactions. Comment allons-nous réagir dans certaines circonstances? Que ferons-nous? Sommes-nous prêts à compromettre nos croyances à cause de ce que pense la majorité de la société ou d'autres groupes religieux? Ou bien resterons-nous fermes? Resterons-nous fidèles? En relisant les exemples de Polycarpe et de Polycrate dans l'histoire séculaire, nous avons certainement devant nous des exemples à suivre et des modèles de foi et de fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de sabbat et je vous dis à bientôt.